Vous écoutez
RMC.
RMC.
Tant qu'on perd pas, on est content, mais tant qu'on gagne pas, on n'est pas heureux.
I will finish now and I will go to IKEA, Conforam, to help my wife to choose the things.
Bah, Olivier ne regarde pas un match de Coupe d'Europe africaine. Ah, oui.
L'After Foot, intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot. Nous sommes en direct, bien sûr, dans l'After, premier podcast de France. Votre espèce de liberté au 32-16. N'hésitez pas à nous appeler pour tous les sujets. Walid Acherchour est là. Walid, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Florent Gautreau est là également. Salut Florent.
Salut à tous.
Et nous avons avec nous ce soir Damien Perkis, qui participe parfois à Génération After. Et ce soir à l'After, salut Damien.
Salut. Salut tout le monde.
Salut Damien. Sur Damien Sport, bien sûr. Oui.
Pendant l'Euro.
Et pas que.
Et pas que, mais là, on l'entend en ce moment.
Ouais, j'ai fait 9 matchs, ça m'a beaucoup plu. Mon dernier hier, on a commenté plus d'une trentaine de buts avec Eric Barrère.
Donc on tu comptes tes buts ?
Bah, disons qu'on avait envie de les compter parce qu'on en a vu pas mal. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, ouais, ça commence à chiffrer. Donc,
alors, en fait, tu fais pas l'équipe de France. Donc là, je suis le moins de buts, c'est l'équipe de France.
Pas faux.
Et c'est vrai que c'est les petites affiches qui nous procurent le plus d'émotions depuis le début de l'Euro.
Bah, c'est vrai que souvent, les matchs de 15h ont donné des beaux matchs.
Et c'est sympa pour Eric Barrère parce qu'il est supporter des Girondins. Donc ça lui fait des belles vacances.
Des buts à commenter.
Des buts à commenter.
Oui, c'est vrai qu'on était à Bordeaux, c'est marrant, t'as vu
les mecs, ils ont lâché.
Même là-bas,
ils ont lâché les Girondins de Bordeaux. Les mecs, ils ont... On était à côté. Ouais. Des fois, il y a une petite rivalité dans les petits clubs autour. Puis comme les Girondins sont à la ramasse, tu sentais que les mecs, ils avaient un peu lâché l'affaire.
Ouais. Ça va vite revenir, je pense.
Bon, l'événement ce soir dans l'After, c'est l'équipe de France, bien sûr, qui prépare son quart de finale dans deux jours face au Portugal. Walid veut justement en parler, donner son avis sur la position de Griezmann. On aura le drôle de dame tout à l'heure pour les infos des quarts de finale. On balayera un peu tout ça ensemble. Et puis à 23h, débat sur l'arrivée de deux Herbi à l'OM. Mercato de folie en cours. Florent Germain sera avec nous pour faire le point sur tous les dossiers. Il y en a plein, des dossiers à Marseille, justement. Et puis à 23h30, Hamza Rahmani sera avec nous. Il va nous raconter ce qui se passe à la Copa América depuis 10 jours. Le Brésil a joué la nuit dernière, notamment. Voilà le programme de l'After pendant 2h, 32-16, direct studio également. On vous attend, direct studio, vous pouvez nous écrire sur les applis RMC, RMC Sport, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, c'est gratuit. Donc voilà, il faut profiter. Jingle Walid, s'il vous plaît, l'équipe de France au programme.
Comment on dit un mensonge en anglais?
Good luck.
Ah mais il y a un problème, toi.
Il est très récent, celui-là. Non, mais c'était un troll. J'aime bien, à chaque fois, chauffer un peu Nico
Jamin. Il dit qu'il a fait exprès.
Ouais.
En gros, il y a débat dans la rédac de l'After.
Non, good luck, c'est bonne chance.
Ah bon? Oui. C'est sûr.
Et par contre, je ne savais pas ce que voulait dire la signification de... De mentir, c'est bon, ça?
Ouais, mentir.
Ouais, voilà. Par contre, je savais pas.
Parce qu'en fait, on a oublié le tennis. Enfin, j'ai oublié le tennis. Eric Salio est là. Pour Wimbledon, salut Eric.
Salut Gilbert. Salut à tous.
Effectivement,
avec sur le cours numéro 2, donc un cours qui n'est pas doté d'un toit, Gilbert,
oui.
et pas d'éclairage.
Donc il pleut,
non plus.
Forcément.
Il a plu ce matin, donc on a pris du retard, oui. Et donc Gaël Monfils joue une sorte de contre-la-montre, contre le temps, mais bon, de toute façon, il n'y a pas le feu. Il mène au score 7-6, 6-4, 2-2 au troisième set contre Stan Wawrinka. C'est un match de vieux, entre guillemets, puisqu'ils ont plus de 77 ans à eux deux. Et puis sur le central, 2-7-0 pour Yannick Sinner, 7-6, 7-6 face à son copain Matteo Berrettini. Mais Berrettini a le break dans le troisième set.
Il est mieux sur gazon, Eric Gaël, non?
Il est très bon cette année-là.
Moi, il me surprend. La demi à Mallorca et là, s'il fait troisième tour.
Et toi, t'as pris la présidence du fan club d'Ampeci Péricard, Eric?
Bah écoute, hein, c'est pas faute de l'avoir annoncé à Pierre Dorian il y a une dizaine de jours. Il va faire très mal. Oui, il va faire très mal, Ampeci. On le reverra demain
finale,
avec grand plaisir. J'ai dit ça, je suis pas sûr.
Non, en tout cas,
il va aller très loin. Il a servi quand même 51 aces hier contre Sébastien Corda. C'est Gilbert, c'est notre nouveau Karlovic ou Isner, c'est comme
puis en plus
veux,
il a été repêché, parce qu'il était éliminé.
J'ai eu marqué LL.
Lucky loser,
d'accord.
Il avait été battu jeudi par Maxime Janvier.
Non mais c'est sympa tes stats de regarder un match de tennis où un mec fait 51 aces, c'est très très chiant quand même.
Ah ouais, c'est chiant.
C'est chiant. Pour l'adversaire, ça doit être récurrent.
Et pour lui, ça doit être génial.
Tu regardes devant la télé un match comme ça.
J'ai du mal mais
voilà.
C'est surtout les duels de très très gros serveurs. Je me rappelle d'une demi, je crois, Sam Querrey, John Isner à Wimbledon, c'était une horreur. C'est quand il y a deux gros
c'était
serveurs,
Anderson Isner plutôt.
Oui, Anderson Isner. Exactement. C'était une horreur.
Bon, merci Eric, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Est-ce qu'on peut remettre le jingle Walid, s'il vous plaît? Il arrive. Attention. 5, 4, 3, 2.
Comment on dit un mensonge en anglais?
Good luck.
Ah. Moi, je crois que c'était pas du tout un troll.
Ah ouais?
Quand je le réécoute comme ça.
Moi, ce que j'aime le mieux.
Flo était là, c'est
ouais, non, je crois la thèse de Walid, mais ce qui aime le mieux, c'est qu'il a pas dit luck, il a dit good luck. Et il a ressorti une expression totale.
Bon, tu voulais parler de Griezmann.
Oui, oui.
Parce que c'est vrai que tout tourne un peu autour de lui dans le positionnement.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'insiders, notamment l'équipe. J'ai l'ordinateur devant moi qui annonce Kamavinga favori pour remplacer Rabiot, parce que Rabiot est bien évidemment suspendu.
J'attends que Fabrice Hawkins confirme, parce qu'en général, il est.
Contre le Portugal. Oui, on verra ce que dira Fabrice Hawkins, le faucon. Mais je voulais en parler parce que moi, j'ai pas du tout aimé le positionnement de Griezmann contre la Belgique. Alors même si le résultat emporte toutes les analyses et donc on doit se satisfaire d'être en quart de finale contre le Portugal en ayant sorti la Belgique. Moi, j'aimerais retrouver Griezmann au milieu de terrain, même si Deschamps nous montre que par ses compositions d'équipe et que même par rapport à son discours, que c'est devenu impossible parce que physiquement il ne peut pas le faire. Mais moi, je suis vraiment mécontent du visage de l'équipe de France, notamment dans la création. Je trouve que sur les deux derniers matchs, sans Griezmann au milieu de terrain, même s'il n'a pas été bon aussi sur les deux premiers matchs, avec Rabiot et Kanté, je trouve qu'on manque de quelque chose dans la création, surtout quand on a le ballon. Et j'ai l'impression que les adversaires nous le donnent de plus en plus, parce qu'ils savent que si on laisse des espaces à l'équipe de France, ça peut être très très compliqué pour eux. Et donc moi, je n'ai pas envie de revoir une composition d'équipe avec Griezmann à contre-emploi sur le côté droit et un possible Kamavinga qui rentrerait à la place de Rabiot. J'aimerais revoir un ailier, donc Barcola ou Dembélé sur le côté pour animer ce côté droit avec Koundé qui a fait un super match contre la Belgique, et revoir Griezmann, Kanté, Tchouaméni au milieu de terrain pour avoir des joueurs qui jouent à leur poste et une équipe qui peut créer avec le ballon, ce que je ne vois pas, ce que je n'ai pas vu contre la Pologne ou très très peu ou contre la Belgique. C'est mon avis du soir, parce que bon. Griezmann, je crois que Flo Gautreau en a parlé notamment sur les derniers jours. Je trouve qu'il y a un souci autour de son positionnement, je trouve qu'il y a un souci autour de son management. Je suis d'accord avec lui et je trouve qu'à un moment donné, il va falloir qu'on revienne à quelque chose d'assez clair, et le quart de finale doit faire partie de cette analyse.
Bon. On va écouter Guy Stéphane dans quelques secondes, parce qu'aujourd'hui il est venu défendre oui. Griezmann. Bon, je suis tenté qu'il aille le défendre, parce qu'au final il est plus peut-être un peu victime des choix qu'autre chose, Griezmann. Flo, t'es d'accord avec Walid avant que Damien donne son avis?
Oui, globalement je suis d'accord. Et ce qu'il vient de dire, j'en avais beaucoup parlé. Je suis d'accord, il y a deux choses sur Griezmann. D'abord, l'espoir déçu de la dernière compo, parce qu'on en avait parlé la veille. J'avais imaginé un 4-4 de losange auquel je ne croyais pas du tout. On l'a annoncé pendant 48 heures, jusqu'au coup d'envoi j'y ai cru, et puis dès le coup d'envoi j'ai compris que c'était pas ça finalement. Et la manière.
Mais non plus, parce que dans l'équipe ils ont sorti notamment que le matin même ils ont changé.
Mais arrête de dire l'équipe, toi. Écoute, Fabrice Hawkins, si tu l'as annoncé à midi le jour du match, tu aurais.
Oui, mais ce qui est vrai, c'est que pendant 48 heures, les joueurs.
Pendant 48 heures, les joueurs.
En fait, Deschamps l'a dit aussi à midi, il a dit aux joueurs, non, on joue pas. On l'a annoncé pendant 3 jours, mais on le fait pas.
Donc il a revu un peu ses plans. Donc même Griezmann était un peu surpris.
Donc ils ont bien préparé le 4-4 de losange. C'est pour ça que j'ai espoir déçu.
Je rappelle qu'il aller voir Griezmann dans sa piole, c'est Griezmann qui l'a raconté.
Il a raconté, ils ont tout dit. Donc effectivement, le 4-4 de losange était dans les cartons, ce qui est déjà une surprise, mais une bonne surprise, enfin, pour moi, parce que justement, pour rebondir sur la vie de Walid, la manière de connecter Griezmann, comme à une époque ancienne, j'avais dit c'était une vieille recette, et j'avais même prôné Giroud Mbappé devant dans ce 4-4-2. Parce que Thuram, je suis bien obligé de constater que ça va pas non plus. Je ne comprends pas ce qu'il y a avec Giroud non plus, parce que Giroud, s'il est pas blessé, il y a quand même un truc. Il est sur le banc, il est coincé sur le banc, on le voit plus. Mais effectivement, je suis d'accord. Griezmann, pour moi, c'est le facteur X. C'est la seule façon de débloquer l'animation offensive. Peut-être ça marchera pas parce qu'il est peut-être pas en forme. Il y a peut-être d'autres choses après derrière. Je parie quand même sur le fait que lui-même commence à baisser les bras parce qu'il a été sur le banc, parce qu'il est dans le 4-3-3 à droite. Il a fait contre mauvaise fortune bon cœur, il l'a dit, parce que c'est un bon gars, mais je pense quand même qu'au bout d'un moment ça commence à lui rentrer dans la tête. Donc effectivement, je recommence. Si un 4-4 de losange, monsieur Deschamps, tant mieux. Et puis cette fois-là, faudra peut-être le sortir et aller au bout. Même si effectivement ce cinéma autour des compos, ça a quand même mis le doute dans la tête de l'autre sélectionneur, parce qu'il s'est quand même lui aussi un peu pris la tête. Mais Griezmann, si tu le remets pas dans sa position préférentielle et si tu le vois pas plus haut, surtout un peu plus haut, connecté à ses attaquants, et même lui plus haut pour pouvoir tirer, pour pouvoir être décisif, je pense que ça sert plus à grand chose. Ou alors, faut carrément, effectivement, qu'il tranche Deschamps dans l'autre sens. S'il pense que Griezmann n'est pas en forme.
Il doit être sur le banc.
Et il est sur le banc. Mais ça vaut pour d'autres joueurs, hein, d'ailleurs.
Dans son attitude, moi, j'ai très rarement vu un Griezmann aussi déconnecté du jeu que sur la dernière rencontre. Ouais. Et même sur sa rentrée contre la Pologne. Ouais. Au moins, j'ai trouvé qu'il y avait un côté désinvolte, voilà. Un body language
Je fais une analyse après, effectivement, un peu psy. Là, je l'ai faite hier. Je la refais aujourd'hui. Et j'ajoute Giroud, que je ne vois pas, mais j'ai eu quelques échos. Ce sont des cadres, ce sont des même Giroud sans jouer, c'est un gros joueur de l'équipe de France. Je pense que s'il était dans le game à sa façon, lui-même, il n'a jamais demandé à jouer 90 minutes, lui-même ne le peut pas, mais s'il était dans le game depuis le début de cet Euro, ce ne serait pas la même chose. Griezmann, s'il était dans le game à sa place, ce ne serait pas la même chose. Je trouve que on n'a pas le Griezmann rayonnant, y compris en termes d'attitude qu'on a eu avant. On a vu disparaître Giroud, c'est-à-dire des cadres de l'équipe. On avait dit ensemble, est-ce que Deschamps va réussir à reconnecter tout ça pour arriver à remettre ça en place? À mon avis, c'est une des clés pour avoir quelque chose de puissant offensivement.
Après, pour le coup, Griezmann a eu deux titularisations.
Attends, j'aimerais que Damien donne son avis.
A eu deux titularisations, ce que Giroud n'a pas eu.
D'accord avec Walid.
Moi, je suis d'accord avec Walid sur le fait que déjà son meilleur poste c'est dans l'axe. On l'a vu à la dernière Coupe du Monde, il avait été très très bon à la fois offensivement et défensivement. Après, il y a des choses qui sont à prendre en compte quand on dit qu'ils ont travaillé le 4-4 de losange. Bien sûr qu'ils l'ont travaillé et que derrière, quand Deschamps vient voir Griezmann pour lui dire finalement non, tu vas jouer à droite, je pense que c'est aussi quelque chose. C'est un ressenti d'entraîneur tout simplement qui fait qu'on change au dernier moment. Ce qu'on a vu à l'entraînement peut-être n'a pas plu tout simplement. Après, il y a aussi l'adaptation. Deschamps l'a dit, Guy Stéphane l'a dit aussi en conférence de presse. Son positionnement était pour aider essentiellement Jules Koundé aussi défensivement sur les prises à deux par rapport à Doku. Après, c'est sûr que c'est un sacrifice. Moi, quand je l'entends venir après au micro au match et dire ouais non, vous allez reprendre le mot sacrifice, je l'ai dit, mais je le pense pas. Enfin bref. Mais oui, c'est un sacrifice de le mettre là. Pour moi, c'est. Sa vraie position, c'est dans l'axe. Alors après, est-ce que c'est en soutien des attaquants ou est-ce que c'est un peu plus de recul, avoir le jeu face à lui et être capable de dissiper des bons ballons?
Il y a autre chose aussi. Quand il est un peu plus bas, là maintenant, je ne sais pas si c'est physique ou autre, il disparaît aussi un peu trop du jeu. Je pense que l'un des soucis des Bleus contre les Pays-Bas, par exemple, même contre la Pologne, c'est qu'ils n'ont pas assez de joueurs dans la surface. Dans le match contre la Belgique, sur la première action, il y a quatre bleus dans la surface. Tu te dis, et clairement, ils ont bossé le truc pour aller se projeter. Puis après, derrière, ça se redéconnecte.
Donc, c'est peut-être un souci physique. Mais peut-être. En tout cas, l'exilé à droite, avec le début d'Euro qu'il a fait, pour moi, c'est le perdre aussi psychologiquement. Parce que quand on ne le fait pas jouer à son poste et qu'il ne réussit rien, moi, j'ai une image en tête où il est à la ligne médiane en première mi-temps et il veut faire une transversale pied droit à l'opposé. Et il la queue complètement. Et derrière, son désarroi, il est criant. Son visage, il fait peur, en fait. C'est pas le Griezmann qu'on voit à l'Atlético Madrid. Dès qu'il perd un ballon, il se remet dans le truc. Et donc voilà, moi, je pense aussi qu'il y a un aspect mental qui est important avec lui. Et si on veut en tirer les meilleurs, en tout cas, le meilleur de ce joueur-là, c'est pas là qu'il faut le mettre.
Et surtout, Damien, en plus, même.
Et j'ai peur, je finis juste sur un truc. J'ai peur que contre le Portugal, on reparte dans un même schéma. Bon, en faisant rentrer Camavinga à la place de Rabiot.
Ça a l'air d'être la tendance.
Par rapport à Nuno Mendes, tout simplement, parce qu'il va falloir bloquer aussi ce couloir gauche qui est très bon côté portugais, et que Griezmann, finalement, défensivement, est capable d'apporter des qualités qu'un Barcola ou qu'un Dembélé ne fera peut-être pas forcément dans les corps physiques et dans le travail défensif.
Il y a un truc incohérent, Damien, enfin pas chez toi, mais dans le discours de Didier Deschamps sur la notion de sacrifice et le fait que physiquement il peut plus jouer au poste de milieu relayeur comme il l'a fait en 2022, c'est qu'en fait si tu m'expliques qu'il doit se sacrifier défensivement mais aussi apporter offensivement, physiquement faut tenir la baraque face à ce type de latéraux comme Nuno Mendes. Donc à un moment donné, surtout qu'en plus moi je trouve que Kylian Mbappé rate son début d'Euro, donc à gauche on n'est pas non plus transcendant, donc on a une incapacité à mettre en danger l'adversaire, et là ça passe encore sur un trou de souris avec ce but contre son camp de Colomboigny. Mais moi j'aimerais quand même qu'on impacte quelque chose dans cette équipe de France offensivement. Et pour revenir sur le body language de Griezmann, moi je trouve qu'il y a une vraie différence entre ce qu'on voit à la télévision devant notre télévision et ce qu'il dit en conférence de presse où je trouve qu'il joue super bien le jeu.
Il est malin.
Ouais. Ah, il, non mais quand il dit au mec de Bein non mais arrêtez de parler
faut
de
qu'on soit ensemble.
Ouais, faut qu'on soit ensemble, ah, arrêtez de parler de score étriqué, on s'en fout. Tu sens qu'il est uni derrière Deschamps dans tout son discours, mais par contre sur le terrain, je le sens mais complètement à l'ouest et même dans son comportement. Donc c'est assez bizarre.
Un mec, c'est un équipier exemplaire.
Oui,
c'est un mec de vestiaire,
ouais. Mais qu'ils le transmettent aussi sur le terrain. Moi, j'ai pas l'impression qu'il a un rôle de leader actuel.
Mais là où t'as raison, c'est que je pense que ce gars-là a un état d'esprit irréprochable qui fait que jamais en conf et dans le vestiaire, il fracassera
quelqu'un.
Mais en revanche, ce que dit Damien sur ce qu'il a vu, ce qu'on a tous vu, et je pense que si on était au stade, ben j'aurais bien aimé voir tout ce qu'on voit pas, tu vois, pour voir tout le ressenti. Je pense qu'il y a un problème. Honnêtement, j'ai un truc. Il y a un truc qui ne va pas. Je me rappelle l'Euro 2021 où Deschamps avait un petit peu perdu son groupe. On se souvient et ça avait été une des raisons. Et je dis pas, je l'avais dit l'autre jour, je dis pas qu'il va pas le récupérer. Je sais pas comment. Mais là, en ce moment, je pense que lui aussi, il dit, je sais pas comment il peut le gérer. Peut-être parce qu'il voit que son Griezmann est un peu moins costaud physiquement et il se dit comment je dois faire. Je dois le faire reposer. C'était peut-être ça son idée d'ailleurs du match. Je dois le mettre ailleurs. Mais en tout cas, ça lui va pas, ça lui convient pas. Il doit le sentir. Puis, deuxième chose, avant de te laisser parler, Damien, ce qui est très gênant et que Deschamps, enfin, on le sait, mais faut quand même le redire. Il te parle d'un joueur par rapport à son apport défensif avant son apport offensif. Il dit à Thuram pendant le match d'aller se mettre au marquage d'Onana. Donc Thuram, on le fracasse à juste titre. Il fait peut-être pas le boulot. Il a pas la bonne gestuelle. C'est pas le neuf qu'on attend pour l'instant. Mais il est là avant tout pour défendre. Deschamps lui dit d'aller se recoller au marquage sur Onana. Moi, je vois des mecs, Thuram, on l'avait au milieu de terrain. Je vois Griezmann, là, on entend, pour Koundé, pour soutenir le défenseur. Mais putain, les mecs, à aucun moment, on entend parler d'animation offensive. Les attaquants, plus le milieu offensif qu'est Griezmann, ils sont là.
Le seul qui défend pas, c'est Mbappé. Et au passage, j'ai vu une stat.
Deschamps a dit aujourd'hui à l'AFP, on ne gagnait pas des matchs en défendant.
Ouais, enfin, d'accord, ok.
Il parle beaucoup. Alors moi, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de, il y a peut-être des gens ou des joueurs offensifs qui des fois ont oublié la notion de défense. Pense à Mbappé ou à d'autres. Mais alors avec Deschamps, c'est sûr qu'ils n'ont pas oublié. Hein.
Mais surtout Flo, il y a tout le monde défend, sauf Mbappé. Mbappé, j'ai vu une stat aujourd'hui. Il faudra qu'on en parle dans les prochains jours. Mais il a couru moins que Ronaldo sur c'est-à-dire que ses kilomètres par match, c'est moins que Ronaldo qui a 40 ans. Donc Mbappé ne défend pas, mais à un moment donné, Mbappé, il est pas dans la forme de sa vie actuellement. Il va falloir aussi lui mettre d'autres solutions pour qu'on soit un peu moins prévisible quand le tournoi va avancer. Donc ça aussi, sur le Griezmann côté droit, moi je trouve que c'est un argument en plus pour qu'on mette un ailier supplémentaire, un Barcola ou un Dembélé, ou à la limite même un Kolo Muani qui à droite a déjà fait des belles choses en équipe de France. Mais va falloir qu'on arrête d'être prévisible. Et sur le côté 2021, tu sais qu'en 2021, Griezmann était très mécontent de son positionnement à droite. Quand il y avait Benzema en neuf et Mbappé sur le côté, il l'avait dit en off, il était très très mécontent et c'était très très mal passé au final.
Dans un instant, on aura Tariq au 32-16. On écoutera Guy Stéphane parler justement de Griezmann. C'est une tradition, hein. D'habitude, une fois pendant la compète, Didier Deschamps, on voit Guy Stéphane faire l'avocat d'à peu près toutes les causes perdues. Il l'a fait aujourd'hui. On en reparle dans quelques instants dans l'after. À tout de suite.
RMC, l'after foot, intégral euro,
Gilbert Bribois.
Il est 22h21, Walid Achercheur, Florent Gautreau et Damien Perkis ce soir dans l'after, tout à l'heure la Copa América, tout à l'heure l'OM, dossier De Zerbi à 23h, vous saurez tout de la méthode De Zerbi avec Yoann Crochet, et puis on parlera du Mercato avec Florent Germain à Marseille bien sûr. On a du basket également ce soir. Vous savez que les Jeux Olympiques démarrent dans maintenant quelques jours, le 26. Et l'équipe de France de basket est en préparation au match face à la Turquie avec Alexandre Biggerstaff. Bonsoir.
Salut Gilbert, salut messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'équipe de France qui continue de dérouler. On se rapproche bientôt des 30 points d'écart maintenant. Après 3 minutes de passé dans ce troisième quart-temps, 55 à 28 pour les Bleus et un Victor Wembanyama facile sur le parquet, meilleur marqueur des Bleus, 13 points, 4 passes, 3 rebonds déjà pour lui, et puis surtout un casse-tête hein, pour les adversaires, hein, ceux qui vont affronter l'équipe de France au JO, se demandent déjà comment ils vont faire pour arrêter eh bien, les deux ministres de l'intérieur, comme on les surnomme, Victor Wembanyama et Rudy Gobert à l'intérieur, 55-28, donc après 4 minutes de passer dans le troisième.
On les appelle les ministres de l'intérieur.
Excellent.
Les ministres de l'intérieur.
Du jeu intérieur.
D'accord.
Très très
exactement.
On pourrait trouver la même chose.
La même taille que le ministre de l'intérieur, justement.
Non. C'est vrai qu'on a une tradition de ministre de l'Intérieur petit.
Oui.
Maintenant que tu me fais penser.
C'est vrai.
En politique, hein, j'entends.
Oui, on avait compris. Avant de continuer le débat sur Annecy, à tout à l'heure, Alexandre. Avant de continuer le débat sur Griezmann, je précise que vendredi, dans deux jours, on sera donc à Suresnes.
Suresnes-les-Bains.
Au club d'Engolo Kanté, là où il a démarré.
C'est chez moi, Suresnes. J'ai vécu pendant 5-6 ans à Suresnes.
Moi aussi. Mon fils est né à Suresnes.
Ouais, mes parents sont à Suresnes, quoi.
Oh là là, ouais.
Ouais, avant que je me marie.
Décidément,
on a plein de trucs à Suresnes.
Comment on appelle les habitants de Suresnes?
Les Surennois.
Surennois.
Côté du Mont. 92-150.
T'étais vers où, toi? À côté du Mont-Valérien.
Pont de Suresnes, vue sur la Seine.
Ah, d'accord, Pont de Suresnes, c'est un peu plus loin.
Plus proche possible de l'hippodrome de Longchamp.
Ah, d'accord. Moi, je suis plus du côté de Nanterre. Plus du côté de Nanterre, moi.
Très bien. Je crois que le stade est plutôt vers Nanterre.
Ouais, c'est là-haut. Bah, c'est,
là-haut, là-haut.
Ouais, c'est, bon,
on
j'habite
pas
dans
très loin. Ouais, c'est j'habite un autre endroit.
Bah, on sera au stade.
Maurice Hubert.
Maurice Hubert, voilà, cherchez le nom. On sera là vendredi. Écran géant pour voir le match Allemagne-Espagne à 18h, le match de la France à 21h et l'after jusqu'à minuit et demi. Donc, si vous voulez assister à tout ça, vous envoyez un mail à l'adresse suivante public@rmc.fr. Voilà, pour signaler votre présence. Vendredi, il devrait faire un temps correct pour une fois. Donc,
j'ai vu que vous êtes caillé à Bordeaux, là. J'ai tous en Roland Courbis avec
vois,
une grande partie.
Tu vois l'Alpe d'Huez et les RMC Sport Games.
Ouais.
Bah, c'était un peu la même chose.
D'accord.
Ouais, on est le 1er juillet.
Parce que vous étiez un moins préparé, quoi.
Ouais.
Ouais.
Alors, on est arrivé à 19h, on s'est fait complètement surprendre.
Exactement.
Par le pressing du vent bordelais.
Exactement. Donc voilà, ça c'est vendredi. Tariq est là au 32-16 pour continuer le débat sur Griezmann. Tariq, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bon, t'as entendu les arguments les uns les autres. Tu dis quoi, toi?
Bah, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. J'espère vraiment que Didier Deschamps va le réincorporer au milieu de terrain, parce que pour moi, tu peux pas te passer d'un Griezmann au milieu de terrain, que ça soit techniquement, que ça soit dans la créativité. Tu peux pas t'en passer, parce que dans l'effectif, moi, il y a personne de.
Donc
de
toi, son tu profil. Veux jouer en 4-4-2, quoi.
Ouais, en 4-4-2, oui, pourquoi pas, ou même un 4-4-2 qui se transforme en 4-4-3, il y a plein de solutions en fait. Mais moi là où par contre j'ai un léger désaccord avec vous, c'est dans le sens où on a l'impression que Griezmann il a un petit peu
loué. 4-4-3, tu joues 4-4-3 toi.
Ouais. 4-3-3, pardon. Ouais.
Avec un 4-4-3, ça règle beaucoup de problèmes.
Ça peut se tenter, mais ouais, c'est pas sûr que ça passe. Ouais.
Moi, physiquement, je le trouve pas trop à l'ouest, Griezmann. Moi, j'ai plus l'impression qu'il est, qu'il comprend pas trop en fait le système dans lequel joue Deschamps. Je trouve qu'il est un petit peu largué tactiquement et qu'il comprend pas trop en fait l'animation qu'il y a autour de lui avec les permutations qu'il peut y avoir entre Thuram et Mbappé. Mbappé qui réclame un petit peu tout dans les pieds, contrairement à la compétition de référence qu'il a eue à ce poste-là en 2022 à la Coupe du Monde. Moi, c'est plus là où j'ai l'impression qu'il est largué plutôt que physiquement. Et qu'il est un petit peu saoulé par l'animation offensive qu'il y a autour de lui. Parce qu'en 2022, Mbappé marchait sur l'eau, t'avais un Giroud qui était beaucoup mieux qu'un Marcus Thuram qu'on a devant. Donc moi c'est plus, je pense c'est plus dans la tête.
Ah tiens, écoutons Guy Stéphane qui aujourd'hui est venu expliquer l'utilisation de Griezmann. Bon évidemment, il répercute ce qu'a choisi Deschamps. On écoute.
Ben Antoine, là on parle d'un joueur qui a 133 sélections, qui a marqué 44 buts, qui jusqu'à mars dernier avait fait plus de 80 matchs d'affilée en équipe de France, qui n'a pas pu continuer parce qu'il était blessé. Un joueur dont on a regretté l'absence au mois de mars, quand on a perdu notamment contre les Allemands. Et on va pas le remettre en question aujourd'hui. Antoine, c'est un joueur collectif, c'est un joueur très subtil dans le jeu, c'est un joueur qui nous a apporté beaucoup et qui va encore nous apporter beaucoup.
Bon, il ajoute, parce que ça, c'est une partie de ce qu'on ne diffuse pas là, on a considéré qu'il serait plus allé sur le côté droit avec une occupation rationnelle de la largeur. Donc, il était positionné sur ce côté, mais avec la liberté de jouer dans l'axe.
Oui, bon après ça,
voilà.
Avec la Belgique, contre la Belgique, bon, j'ai pas été transporté par la rencontre de l'équipe de France, hein. Je l'ai déjà dit, mais pourquoi pas, hein. Bah, peut-être ça a fonctionné, mais moi j'ai déjà répété qu'avec un Mbappé qui est lisible et qui est souvent pris, il me faut un joueur qui déstabilise un peu plus du côté droit. Moi, j'ai pas l'impression qu'avec Griezmann ce soit le cas.
Bon, Alors, arrêtons là sur Griezmann. Je pense qu'on a à peu près tout dit. On verra comment il est utilisé vendredi. Je précise que donc Stéphane est venu parler aujourd'hui aux médias en Allemagne. Il dit bon, ben oui. Vous en faites pas à l'entraînement. Il y a beaucoup de buts parce que ça, c'est le grand débat. Avec le seul Français qui a marqué dans le jeu jusque depuis le début de la compète, c'est le Normand.
Exactement.
C'est que c'est quand même qu'il y a un problème.
C'est, ouais, c'est fou.
Mais voilà.
Au passage, je sais pas si c'était fait exprès, mais j'ai regardé un reportage de beIN Sport qui parlait de l'entraînement notamment. Ils ont mis une minute de l'entraînement, il n'y a pas une frappe cadrée.
Alors ça, c'est vrai que ça arrivait apparemment sur deux entraînements où les journalistes étaient là.
Il y a pas
un exercice de fin d'entraînement apparemment ils ont tout raté.
Il n'y a pas une frappe cadrée sur la minute.
Nos reporters ont compté, il y en a 17 cadrés sur 90.
Ah ouais.
Mais c'est pas beaucoup. Hein.
Ouais, c'est pas beaucoup.
Je crois qu'il a fait l'exercice. C'est sûr. Ah bah demain, tu mets moi devant le but à l'époque.
J'ai vu les attaquants. J'ai vu les attaquants.
Mais c'est sûr que oui, c'est criant et on le voit en match.
T'as marqué combien de buts dans ta carrière, toi?
Ouais, je suis toujours marqué un petit peu plus d'une vingtaine. Mais ces exercices-là, c'est généralement c'est les attaquants pour reprendre la confiance en fin d'entraînement qui le font. On a vu, j'ai vu des joueurs qui très rarement vont se retrouver dans cette situation-là. Après, il y a la qualité des centres aussi. On sait qu'un match, en match, le ballon n'arrive pas tout le temps très bien. Mais il y a quand même ça aussi qui joue. Mais aujourd'hui, le bas qui blesse, c'est le bas blesse à ce niveau-là surtout. C'est à la finition. Quand on voit Tchouaméni qui a, trois fois, il est à l'opportunité aux 18 mètres de pouvoir au moins cadrer. Là, il y a quand même un problème.
Ça, Damien, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a très peu d'offensifs sur le terrain, que nos offensifs ils sont soit pas bons, soit ils sont bloqués, et bah ça c'est Koundé qui est le plus dangereux, c'est Kanté qui est le plus dangereux, c'est Rabiot contre les Pays-Bas qui est le plus dangereux, c'est Tchouaméni contre la Belgique
qui est le plus dangereux. Et tout le monde est arrêté.
Oui, voilà.
C'est ça le problème.
Mais donc si c'est ces mecs là à l'entraînement, ce que tu dis, ça dépend qui tire à l'entraînement, mais il faut que
c'est pas non plus le milieu du jeu, c'est pas d'avoir Tchouaméni ou Kanté ou Kamavinga qui frappe à chaque fois.
Mais c'est la volonté du coach à un moment donné aussi,
parce que c'était dans l'adaptation, parce que on parlait tout à l'heure de Deschamps, comment il joue son système et tout. Pour moi, il est dans l'adaptation depuis le début de la compétition et il s'adapte à l'adversaire. On parle de jeu offensif. Tu peux pas dire que tu vas proposer quelque chose d'offensif si tu t'adaptes à l'adversaire. Ça, c'est la première chose, c'est le premier constat. Parce que si tu fais travailler Thuram parce que Mbappé veut pas défendre, c'est un problème. On parle de questions de collectif et de perdre son groupe. On parlait depuis l'Euro 2021. On parlait de Griezmann tout à l'heure. Griezmann, il fait la gueule. Oui, il fait la gueule. Il fait la gueule depuis le brassard de capitaine. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus cette cohésion qu'il y avait avant. Et t'as des joueurs majeurs qui sont partis, comme Lloris, comme Varane, qui tenaient en quelque sorte un petit peu ce groupe dans la gestion des égos, on va dire. Aujourd'hui, ça commence à péter un peu partout aussi, parce que il y a des traitements de faveur. Et ça peut pas marcher aujourd'hui. Je te dis pas que le fait d'être nul devant le but, ça vient de là, mais le niveau de jeu, en quelque sorte, vient aussi des choix de Deschamps et de la façon aussi dont il fait vivre son groupe.
Il y a un traitement de faveur, c'est Mbappé.
Mais quand il fait pas gagner les matchs, ça devient compliqué.
C'est quand même ton meilleur joueur, ton capitaine, c'est celui qui doit tirer vers le haut et qui aujourd'hui ne répond pas aux attentes.
L'une des clés, et c'est pour ça qu'on peut être inquiet, dans cet Euro d'ailleurs pour plein d'équipes, hein, ce sera le même cas pour le Portugal, c'est quand même les frappes de loin hors surface. Il y a eu beaucoup de buts comme ça dans l'Euro. Et nous, on a été particulièrement... Alors, l'histoire de l'entraînement est assez éclairante à ce sujet, mais en match, le dernier match, c'est un des pires matchs de l'équipe de France dans ce domaine-là.
Ah oui,
parce que, de fait, Tchouaméni, d'habitude, est bon dans cet exercice. Mbappé cadre énormément de frappes, même parfois des frappes lisibles, mais il les cadre. Sur le banc, on a Fofana qui prend souvent sa chance aussi quand il est titularisé.
Griezmann, normalement.
Griezmann, évidemment, peu. Griezmann, par exemple, il a une action emblématique. Il veut faire une sorte de passe dans la surface en devinant un appel
Crois que c'est Thuram.
Une passe qui aurait pu être magnifique, sauf que de toute façon, il n'y a pas les appels qu'il faut. Un Griezmann en confiance.
On va chercher Rabiot contre les Pays-Bas.
Oui.
Et Rabiot tous les jours, et qu'importe le footballeur qu'il peut y avoir, il aurait mis une mine, il aurait enfoncé Verbruggen. Tous les jours.
Et pourquoi il
cherche une passe? Mais pourquoi? J'en sais rien. Ouais. Tu vas faire briller Griezmann. Ouais. Pourquoi? Marc, on te demande de marquer. Le but du football, c'est de marquer des
buts. Non, mais Griezmann qui ne frappe pas sur l'action-là pour faire cette passe.
Oui.
Ouais, pour finir, Stéphane a défendu Giroud, qui a un comportement irréprochable, dit-il. Enfin, je pense qu'il aimerait jouer un peu plus, Giroud, mais voilà.
On sait pas tout, je pense.
Eric Salio nous appelle. Que se passe-t-il à Wimbledon, Eric?
Et ben malheureusement, Gaël Monfils n'a pas pu terminer son match face à Stan Wawrinka. À 21h24, le superviseur a renvoyé tout le monde au vestiaire. Alors, il est en ballotage très favorable, pardon, puisqu'il mène 2-0. Et il y avait 5 partout au troisième set. Donc, les deux joueurs reviendront demain en tout début d'après-midi sur le court numéro 2. En revanche, ça continue à jouer sur le center court, puisque Matteo Berrettini vient d'empocher le troisième set, 6-2 face à Yannick Sinner. Donc, le numéro mondial ne mène plus que 2-1.
À tout à l'heure. Dans un instant, les drôles de l'âme, on va parler des autres matchs à venir de quart de finale. Ils sont tous encore concernés, aux drôles de l'âme. Là, il y en a pas un qui est éliminé. Bon, faut dire qu'il y en a certains qui ont plusieurs sélections.
Oui, c'est facile.
C'est facile.
C'est vrai. Johan, il a perdu l'Italie, mais il revient avec les Pays-Bas.
Ouais. Bon, Paulo Breitner, lui,
il a perdu l'Autriche, mais il a la Suisse et l'Allemagne.
Oh, normal.
Ah oui. Bon, ils sont là, dans quelques instants. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Il est 22h34, ils sont là, Walid Acherchour, Damien Perkis, Florent Gautreau et les drôles de l'âme nous rejoignent pour parler des quarts de finale qui arrivent après-demain et samedi soir. Johan Crochet est là, salut Johan.
Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Paulo Breitner, salut Paulo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Fred Hermel, salut Fredo.
Hola chicos.
Et Julien Laurence, Julien bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Bon, déjà félicitations, hein, vous êtes tous encore en course en quart de finale.
Parce qu'on a transpiré.
C'était pas forcément gagné, mais vous êtes là. Bravo les gars. Bon, Johan, il a eu chaud aux fesses quand même. Et puis il s'est trouvé une petite dépendance hollandaise. on va dire.
Qui l'arrange bien.
Assez illogique géographiquement, mais bon, c'est pas.
Oui, mais historiquement, ça serait plutôt l'Espagne. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
Les Pays-Bas.
C'est vrai que Charles Quint.
Ouais, quand même.
Bah écoute, tu veux nous parler des Pays-Bas, Fred?
Non, parce qu'on les a laissés il y a longtemps quand même. Bon. Même si Xavi Simons, il est un peu catalan quand même.
Démarrons par le match de vendredi là, qui démarrera les quarts de finale. Et c'est le gros choc entre l'Espagne et l'Allemagne qui vous concerne tous les deux. Les gars, alors Fred, je sais que vous avez chacun bossé de votre côté, parce que Jérôme Thomas, pour une fois, vous a donné du travail. Hein, avec des questions précises.
Il vous a donné des devoirs, comme à l'école.
Et vous les avez fait?
Oui.
Alors, c'était quoi ta première question, Fred?
La première question, c'est ce qui m'a le plus plu dans cette Espagne.
Ah, et alors, quelle est ta réponse?
L'enthousiasme, la joie de jouer, le côté ludique de cette Espagne. C'est-à-dire que c'est sûrement l'équipe la plus belle à voir, celle où on voit qu'ils sont contents d'être là et qu'ils jouent vers l'avant. Et je pense que, voilà, quand on voit notamment l'équipe de France, c'est vrai qu'il y a plus, au-delà de considérations purement footballistiques, je trouve que l'envie d'aller vers de l'avant de l'Espagne est louable.
Même question côté allemand, Polo.
Bah que les Allemands sont en train de réussir leur euro, aussi bien au niveau de l'organisation, même si tout, évidemment, n'est pas parfait à 100%, on pourrait discuter de tout ça, mais que finalement, depuis 2016, c'est la première fois que l'Allemagne revient en quart de finale d'un grand tournoi international, et ça faisait longtemps quand même. Donc ils ont retrouvé leur niveau. Maintenant, dans le jeu, il y a plein de choses très positives. Encore une fois, je parle de cette absence du vécu et qu'on est dans l'urgence, parce qu'on a trouvé encore une fois l'équipe au mois de mars 2024, même s'il risque d'y avoir des changements. Quelques changements, enfin en tout cas des joueurs qui ont gagné leur place dans le 11 de départ. Moi, ce que j'apprécie pour le match de vendredi, c'est évidemment ce que à peu près toute la presse, c'est peut-être la première fois que toute la presse européenne est d'accord, c'est que ce sera la finale avant la lettre et que même si ça porte pas son nom parce que c'est un quart de finale, au niveau du jeu, ben. Je cite Rudiger, on espère être d'égal à égal. Moi, je suis beaucoup plus pessimiste, mais j'ai pas envie de défricher les autres questions. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Mais ce qui est sûr, c'est que revoir les Allemands en quart de finale, ça fait du bien quand la dernière fois, c'était en 2016, quoi.
Erreur fatale de Rossellou.
Ah oui.
Ah oui.
Ben, il a voulu refaire un an plus tard ce qu'ils voulaient faire avec Zidane en disant
parce
on va mettre Kroos à la retraite.
Exactement. Puisqu'on est exactement dans les mêmes configurations qu'en 2006 avec Zidane, c'est-à-dire qu'en 2006, vous vous en souvenez, Zidane avait annoncé sa retraite avant la Coupe du Monde. Il quittait le Real et quittait le football après la Coupe du Monde. Et Toni Kroos a fait de même il y a quelques.
Bah, en 2006, si je me souviens bien, c'était plutôt les médias espagnols. Hein.
Non, c'était
la une
Marca.
C'était la une de Marca.
C'est pas un joueur qui l'avait dit.
Ouais, c'est ça.
Non, mais sauf que
automatiquement, après les déclarations de Rossellou, tout le monde en Espagne se souvient de cette histoire. Enfin, je veux dire, c'est dans la culture du foot espagnol. Moi, ça roubila la finale, on va mettre Zidane à la retraite. Ça fait partie des trucs, parce qu'ils ont perdu 3-1, c'est un truc qu'il faut plus dire, quoi. Voilà. C'est-à-dire que les médias sportifs en Espagne ont une telle importance qu'ils participent de la culture footballistique espagnole et grandement. Donc, cette une, Zidane, ça l'avait un petit peu énervé. Et là, il est évident que et ça avait servi aussi un petit peu de motivation générale des Bleus face à cette équipe espagnole. Donc le fait que Rossellou dise, et là en plus c'est de son partenaire, alors c'est pas bien méchant, mais c'est une manière de parler, mais sauf que automatiquement peut-être qu'il se souvenait pas parce qu'il est, pourtant il est pas si jeune.
C'est du chambrage.
Mais automatiquement on a fait le parallèle, il a dit nous allons mettre Toni Kroos à la retraite, donc automatiquement. Mais le problème c'est que ça répond. Aux déclarations de Lehmann qui a dit que cette équipe d'Espagne était jeune. Attends, je vais retrouver
la petite. Petite.
Elle est petite. Elle est inexpérimentée. Voilà. Et Toni Kroos en conférence de presse, et l'Apollo va pouvoir le préciser. Elle a dit c'est une petite. Elle est petite. Elle n'a pas d'expérience. Elle est comme une équipe de jeunes. Voilà ce qu'avait dit Lehmann, et aujourd'hui Toni Kroos a dit que Lehmann était connu pour ses sorties de route et qu'il fallait pas trop lui prêter d'attention parce que voilà. Oui, il y avait des jeunes, mais qu'ils étaient bien encadrés.
Ça c'est exactement comme le débat que je voudrais faire dans l'after, parce que les médias étrangers ont l'habitude maintenant de reprendre des phrases d'anciens grands champions qui sont plus idiots que leurs pieds. Lehmann est connu pour ça, c'est un idiot fini, à chaque fois qu'il parle tu sais même pas pourquoi il parle, mais comme c'est un ancien champion, c'est repris dans la presse internationale, etc. Et on a l'impression que ça a valeur absolue. Il y en a un paquet comme ça, y compris en France, évidemment, qui t'expliquent, qui passent, qui sont experts, qui t'expliquent, voilà, et blablabla. Alors, je sais pas si Lehmann parlait par rapport à sa taille et la sienne, bien entendu, parce que c'était un géant, mais si tu veux, ça fait partie de ces choses inintéressantes, et moi, je serais patron de journal, mais je sais même pas pourquoi j'irais interviewer Lehmann, quoi. Ou alors, je fais du journal de caniveau,
la presse espagnole, enfin, en l'occurrence, je crois que c'est Marca qui a fait l'interview. Voilà, c'est tellement dur d'avoir des. Tu sais comment ça se passe. C'est tellement dur des joueurs que tu prends ce qu'il y a. Et puis en Espagne, on ne sait pas que
Mais alors, ils ont deux trois punchlines de Lehmann, ils sont contents, c'est tout. Je cherche pas plus loin.
Mais bien sûr. Voilà.
C'est vrai que c'est très informatif.
Il faut remplir entre chaque match. Excuse-moi, il y a quelques quotidiens espagnols de sport, de foot en Espagne. Donc,
Damien, Florent, Walid, qui est favori de ce match et comment vous le sentez ?
Sur la dynamique, c'est l'Espagne. Parce que je trouve que ce qu'ils ont montré sur le début du tournoi, pour moi, c'est la meilleure équipe. Hein, c'est ce que Fred disait tout à l'heure.
L'association. C'est l'équipe la plus séduisante, la plus agréable à voir.
Mais même globalement, moi, je trouve que hormis le match contre la Croatie, elle concède de très très peu. Elle a un volume d'occasion qui est énorme. Elle a des individualités qui sont très très performantes. Et je lui vois moins de défauts à cette équipe allemande. Après, l'Allemagne fait partie pour moi, voilà, de la deuxième équipe derrière l'Espagne. C'est pour moi la finale avant l'heure. Donc on va voir ce qui va se passer. J'ai très très hâte de voir ce match-là, mais je dirais plus l'Espagne sur la dynamique.
Damien ?
Moi je vois un match accroché. Après j'ai envie de voir. L'Espagne me plaît beaucoup depuis le début du tournoi. L'Allemagne a trouvé une équipe depuis mars, on le disait tout à l'heure, mais qui est consolidée, qui est très dure à manœuvrer aussi défensivement. J'ai hâte de voir en fait ce que va proposer l'Espagne offensivement par rapport à cette équipe allemande qui est plutôt solide. Après il y a aussi le contexte. Voilà, on est en Allemagne, il y a peut-être pour eux aussi le public qui va jouer. Il y a l'envie de bien réussir. Et puis voilà, ces petits tracas dans la presse aussi qui peuvent aussi être un sursaut de motivation, un surplus de motivation.
Est-ce que c'est le Allemagne-Italie de la demi-finale équivalent un peu de 2006, tu vois, le dernier tournoi chez eux, ils ont perdu en demi-finale contre l'Italie, rappelez-vous, qui était aussi une grosse équipe.
Il y a de ça quand même, mais on vient pas, c'est pas tout à fait. Moi j'ai du mal avec cette histoire du compte d'été de comparer 2024 avec 2006, encore une fois parce que Klinsmann à l'époque, lorsqu'il était sélectionneur, avait eu le temps de travailler pendant 2 ans. Nagelsmann, encore une fois, il a éliminé des joueurs à partir des défaites contre l'Autriche et la Turquie, et puis il a trouvé, après sa victoire contre l'équipe de France, son 11 de départ. Moi, je compare pas ça avec ce qui se passe en 2006, ce qu'il fallait absolument réussir en 2006. Là, on sort d'une crise extraordinaire du foot allemand.
Bon, bah là, si t'es éliminé en quart, les gens vont dire que c'est un échec quand même. Non.
Bah pour les Allemands, oui, mais en fait, pas pour moi, dans le sens. Non, mais faut expliquer pourquoi, parce que c'est l'Espagne en face. Ça serait une autre nation, ça serait autre chose. Il y a eu un match, on l'oublie, mais rappelons que les Espagnols avaient battu les Allemands lors de l'Euro 2008, puis la Coupe du Monde 2010, et ensuite les Allemands sont devenus champions du monde. Ils avaient même gagné un match amical après 2014. Et puis ensuite, à nouveau, eh bien les Espagnols ont commencé à dominer, etc. Et puis on se pose la question de cette fameuse rencontre. Il y a la crise du football allemand, il y a cette fameuse rencontre de 2020, je ne sais pas si Fred se rappelle, le fameux 6-0 infligé par l'Espagne en Ligue des Nations. Et c'est à l'époque, en fait, on est en 2024 sur ce qui s'est passé en 2020. Je ne sais pas quel sera le résultat, mais on est revenu. En 2020, les Allemands voulaient être l'égal de l'Espagne et passer l'Espagne parce que ça leur permettait en plus de se qualifier pour le Final Four, mais de réussir en fait à passer. Or là, ils ont le sentiment que la référence c'est encore l'Espagne. C'est pour ça que depuis 2-3 semaines, quand vous écoutez les experts, les bons en Allemagne, ils vous expliquent que l'Espagne est au-dessus, etc., et que ça va être compliqué pour nous. Et c'est pour cette raison qu'en huitième de finale, la presse allemande réclamait de mettre une volée aux Danois parce qu'ils voulaient une montée en gamme de la Nationalmannschaft pour être prêt contre l'Espagne. Et là, on arrive encore. Alors bien sûr, vous allez voir les sondages faits par Kicker, plus 200 000 personnes, et même là c'est 54-46 pour l'Allemagne, mais évidemment on va pas reprocher aux Allemands d'être plus pour la Nationalmannschaft que pour l'Espagne, mais moi honnêtement quand tu vois les experts qui parlent, ils disent que l'Allemagne est en dessous, ça veut pas dire qu'on n'a pas envie de la passer cette Espagne là mais voilà, on est dans cette situation là où c'est un nouveau test pour cette sélection allemande, et honnêtement, être en quart de finale, déjà c'est pas le standing de l'Allemagne historique, donc ça va déranger au bout d'un moment. Ça arrivera en demi-finale, ça serait mieux. Mais comparer encore une fois le compte d'été par rapport à ce qui s'est passé en 2006, moi j'ai un petit peu des petits soucis parce qu'on n'a pas les mêmes repères par rapport à ce moment-là.
Et moi je mettrais un petit bémol par rapport à l'Espagne pour deux choses. On s'est rendu compte que le groupe était finalement pas si difficile que ça, hein, puisque l'Italie, on va pas revenir, enfin vous allez revenir là-dessus avec Johan, était quand même très très décevante, que la Croatie était vraiment en fin de cycle. Donc le problème, c'est que le gros test, il est à un moment décisif face à l'autre meilleure équipe du tournoi. Et puis je suis désolé de le dire, mais on sait comment ça peut se passer. On a vu quelques petits exemples. S'il y a un petit doute, naturellement, l'arbitrage sera pour l'Allemagne. Voilà, parce que c'est chez elle, on sait comment ça se passe. Donc ça peut être un élément. Oui. Excusez, ça peut être un élément.
Ouais, enfin je sais pas, parce qu'ils jouent à domicile, tu penses quoi?
Bah, parce qu'ils organisent, oui.
Ouais. Voilà, enfin, bah, je sais pas. En tout cas, moi je.
Appuyez sur le bouton.
Je disais, c'est pas la Ligue avec le Real.
Ah bah non, justement, c'est que le Real, bah non.
La Ligue des Champions.
Je ne sais pas si on se souvient, mais c'est pas le Real qui a payé pendant plus de 20 ans jusqu'à 7 millions d'euros au vice-président du comité d'arbitre.
Il est bon, ce Fred.
Juste. Bah, non, mais c'est des faits, rien que des.
Pour,
rien
revenir,
que
des faits. Pour revenir au match. Mais,
oui,
pour revenir à la vie. Mais, juste un.
Ouais, bon, alors, c'est le tour de Florent.
Allez, Fred, lâche la grappe. Juste un mot sur ce match. Moi, je pense que le scénario est quand même plutôt favorable à l'Allemagne, parce que tout le monde voit gros comme une maison l'Espagne, et c'est justifié, parce que l'Espagne a effectivement été la meilleure équipe depuis le début du tournoi. Elle a quand même, quand on observe les matchs, et même le premier contre la Croatie, elle a montré aussi défensivement quelques failles que,
bah, c'est la question, ce qui m'a déplu.
Ouais.
Préparé par Jérôme Thomas.
Et donc.
Et moi, c'est la défense centrale.
Ouais. Et justement, donc moi, je trouve que le scénario pour l'Allemagne pourrait être bon, parce que oui, si tu perds, si l'Espagne est vraiment supérieure et aussi flamboyante que depuis le début de l'Euro, est-ce que vraiment on va reprocher à cette Allemagne dont Polo nous dit qu'elle a été construite, on va dire, dans l'urgence? Et ben, moi, je crois pas. Et à l'inverse, je pense que cette Allemagne ou la Suisse sont les deux nations qui pourraient faire le plus de mal à l'Espagne. Donc je serais plutôt d'ailleurs assez sensible à un scénario qui se terminerait par l'Allemagne qui passe, parce
c'est
que
le problème, Flo, c'est qu'individuellement, notamment devant,
ouais, mais ces tournois,
c'est beaucoup plus fort.
C'est ces tournois où ces équipes qui cartonnent dans la première phase là et qui ne vont, oui, pas au bout, sont légion, oui, ces histoires sont légion,
oui,
aussi.
Sûr, oui, oui.
Donc je suis pas certain que on puisse dire à ce niveau de sélection là que l'Espagne, tu vois, on n'est pas sur l'Espagne Géorgie, tu vois, on est sur autre chose.
Oui, bien sûr, oui. Après, donc tu vois Gundogan un peu moins bien sur les derniers matchs. Wirtz est sorti du 11, Moussiala c'était sur courant alternatif sur le dernier. Je trouve qu'à côté de Kroos, Andrich, je trouve pas ça dingue. Moi je trouve globalement que de l'autre côté, tu vois, quand tu vois la perf de Nico Williams, Yamal au milieu de terrain, Rodri et Ruiz,
ça c'est devant.
Oui, bien sûr. Après, moi, sincèrement.
Mais la charnière centrale, il y a un vrai doute. Là, ça sera la porte, le Normand. Quand tu vois le Normand face à la Géorgie, il a quand même beaucoup, beaucoup souffert.
Quoi. Oui, après, il fait une grosse erreur, mais.
Ouais, oui, mais même dans le jeu. Dans
les gars, comment s'arrête, le temps passe.
N'oubliez pas Fulcrog, le sauveur.
Merci, Polo. Merci, Fred.
On n'a pas répondu aux autres questions.
Ah bah, c'est comme
alors
ça,
qu'on a bossé pendant
temps.
Des heures.
Pas le temps.
J'ai même pas pu regarder la 7ème compagnie parce que je bossais sur les questions.
Oh, mon pauvre chéri. Il a répondu aux questions en deux secondes.
Polo, juste une question. Schlotterbeck.
Non, on n'a pas le temps.
Schlotterbeck, il joue ou pas? Il démarre?
Oui, ou
alors
non.
Apparemment, il va commencer avec avec Rudiger et Rome sera titulaire et Wirtz fera son retour.
D'accord, merci.
Dans un instant, tout sur l'Angleterre et les Pays-Bas. Salut Fred.
Tu peux regarder. Bonjour Clé, le gardien, Unai Simon.
Très bien. Moi, je pédale, toi, tu klaxonnes.
Passe à Neuer.
D'ailleurs, pour Polo. N'oubliez pas l'expérience RMC quand vous entendez l'alerte que vous connaissez. Vous pourrez envoyer RMC par SMS. On vous offre sur RMC votre voyage à Hambourg vendredi pour assister au match France-Portugal. Donc restez attentifs, ça pourrait tomber dans les minutes qui viennent. Dans un instant, c'est l'Angleterre et les Pays-Bas.
Clément Dantil
on programme. En de quoi c'est
pas le coq de Clément Dantil.
Ah, peut-être.
Fais gaffe quand même.
Ah, pardon, j'ai dit que c'est les places pour les quarts. Non, en fait, c'est les places pour les demi qu'on offre. Voilà, on sait pas encore, on n'est pas encore à l'affiche, mais voilà.
Pour le France-Allemagne. Hein.
Restez attentifs. Ce sera le 9 juillet. Allez, à tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
22h52, Florent Gautreau est là, Walida Chercheur est là, Damien Perkis est là, Johan Crochet et Julien Laurence. L'Angleterre, justement, face à la Suisse, ce sera samedi à 18h. Julien, alors je sais pas s'il y a des trucs qui t'ont plu, toi, côté anglais, du coup.
Rien du tout. C'est une très bonne question, hein, de Jérôme Thomas. Mais vraiment rien du tout. Non, j'y ai réfléchi quand même. On peut dire le retourné acrobatique de Jude Bellingham, bien sûr, qui sauve le pays entier, l'équipe, Southgate, tout ce qu'on veut. Mais vraiment, à part ce moment-là de génie, enfin de génie, de un moment de génie, mais voilà, de tenter ce genre de réflexe-là quand le ballon est à cet endroit-là. Mais c'est vraiment, il y a que ça dans ce qu'on a vu pour l'instant en quatre matchs des Anglais.
Bon, vous dites quoi de l'Angleterre, les gars? Vous aussi, vous êtes pas déçus?
Je suis sur la même ligne. Ce qui m'a plu, c'est de voir
Angleterre-Suisse sur le papier, ça pourrait sembler déséquilibré, mais en fait, c'est carrément équilibré. En fait.
Ah oui, c'est carrément équilibré parce que la Suisse, pour moi, est la troisième meilleure équipe du tournoi depuis le début de la compétition avec l'Allemagne et l'Espagne. Maintenant, après, il va y avoir une confrontation aussi d'individualité, peut-être avec l'Angleterre. L'Angleterre va peut-être lancer son tournoi un jour, et le fait d'être au bord de la falaise, là, à la 94e minute contre la Slovaquie ou la Slovénie. Contre la Slovaquie, excuse-moi. Voilà, peut-être qu'ils vont lancer un moment donné leur tournoi, mais oui, sur la dynamique, c'est vraiment un duel qui va être très très intéressant à regarder.
Moi, je pense que les Suisses partent avec un avantage, celui d'avoir fait un très bon début d'Euro, d'avoir des certitudes dans le jeu aussi. Tactiquement, je trouve que ce qui est fait par Yakin est très très bon. Pour avoir mis un bicheur côté gauche qui vient jouer au milieu de terrain, qui a rendu fou les autres milieux de terrain contre qui ils ont pu jouer, avoir mis tellement de bordel tout simplement dans les têtes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de certitude de côté suisse. On parle, Walid parle d'individualité. Quand on voit l'euro de Saka ou même d'un Foden et d'un Bellingham, tout simplement, pour moi, il va falloir vite trouver... trouver l'heure du réveil parce que là ils vont faire face à une grosse équipe qui a des envies et qui a une génération aussi qui a envie de briller. Donc pour moi, pour l'instant, c'est la Suisse qui part avec l'avantage.
Là je parle du collectif, mais même individuellement, Xhaka fait un super tournoi.
Ah, oui.
Akanji est énorme, c'est pour moi le meilleur défenseur de l'Euro aujourd'hui. Bon, il y a juste devant où t'as quelques incertitudes, mais Vargas et Ndoye
sans être flamboyant, ils sont bons
sur les derniers matchs.
Ils ont été bons, c'est ça, contre l'Allemagne, contre l'Italie. Grosse individualité.
Ouais, ça va être ça.
Mais en fait, la Suisse a tout ce que l'Angleterre n'a pas collectivement dans l'organisation. Damien en parlait, dans la structure de jeu, la structure de relance par exemple, mais même dans le pressing aussi. Mais si tu regardes individuellement, il y a quand même plus de talent, tout cas de joueurs qui devraient faire une différence individuelle.
Ouais, je suis d'accord avec toi, sauf que l'histoire de ces tournois récents y compris l'Italie lors du dernier Euro. Moi, je vais aller chercher les performances au final. Hein, je veux dire les performances collectives.
Et oui,
l'Argentine. Et c'est logique dans ces, puisque ce sont des tournois d'ailleurs. C'est pas forcément la meilleure équipe au sens constellation qui gagne. Et moi, je vois la Suisse favorite. Et je pense que le 2-1 de l'Angleterre contre la Slovaquie, c'est le but de Bellingham notamment, c'est l'équivalent de l'égalisation d'Italie contre la Croatie. Pour moi, c'est le champ du cygne. C'est-à-dire qu'OK, ça passe, mais ça repassera pas contre une équipe charpentée. Et de même que derrière
c'est marrant,
la Suisse,
tout le monde, tout le monde voit la Suisse.
Ah, mais moi je vois la Suisse en finale.
Non, j'attends de voir.
Non, mais puisque tu me demandais ce que j'avais aimé de l'Angleterre, moi je suis comme Julien, hein, on en a beaucoup parlé. Je les voyais pas passer. Enfin,
je vais pas demander à Julien ce qui lui a déplu parce que il y en a pour deux heures.
Ah bah tout.
Oui. Voilà. Mais donc ouais, la Suisse et pour moi et surtout parce que je pense que ce scénario un peu miraculeux, de même que l'Italie contre la Croatie, c'était miraculeux, c'était pas mérité, qui passe. Hein, je pense, et bah, l'Angleterre c'est pareil.
Ça peut être aussi, toi tu le vois, tu le calques sur Italie-Croatie, ça peut être aussi France-Irlande 2016, ça peut être aussi Paraguay-France.
Ouais, ça peut être un déclic, c'est sûr.
Après, t'as raison, et bien sûr que ça peut arriver. Mais j'essaie de voir, et pour l'instant, on n'a pas été démenti trop par l'analyse un peu finalement classique et factuelle de ce qu'on avait vu. C'est-à-dire que globalement, tu vois, on a revu des défauts dans tous les matchs de l'Angleterre, on a vu à l'inverse des qualités dans tous les matchs de la Suisse, et puis même là aussi de la confiance qui s'accumule un peu plus grande. Donc bien sûr que tu peux arriver, ce serait pas scandaleux, puis les scénarios sont là pour être démentis, mais pour l'instant on a plutôt eu quelque chose d'assez logique. La France par exemple qui passe contre la Belgique, même si les deux étaient pas bons, la France est supérieure à la Belgique, donc quelque part tout était à peu près logique, je dirais presque sauf l'Autriche-Turquie. C'est l'exception qui confirme la règle.
Quel joueur sera le joueur Bellingham, le gars qui peut te faire la diff, c'est lui.
Ouais, mais après on peut dire la même chose de Saka et Foden qui sont pour l'instant très loin de leur niveau habituel en club. Alors on l'a souvent répété, hein, ça sert à rien de comparer les formes de club et le football international, c'est pas, ça n'a rien à voir. Mais quand même, à ce niveau-là, il y a eu autant de différences, c'est assez choquant. Kane aussi, bien sûr, et puis sûrement, je pense aussi, le défenseur qui viendra remplacer Marc Guéhi, qui avait été plutôt bon jusqu'à présent, qui est donc suspendu. Et là, c'est la grosse interrogation. Est-ce que c'est un Konsa? Est-ce que c'est un Dunk? Est-ce que c'est un Gomez, par exemple? On pense que ce serait Konsa, normalement. Et pour lui, ce sera un très, très gros match contre un Mbolo, par exemple, un Ndoye qui pourrait rentrer à l'intérieur, un Vargas, etc. etc.
Un Joe Gomez, il ne peut pas prétendre à une titularisation, non?
Si, peut-être, c'est un des trois. J'ai dit Dunk, Gomez ou
Parce que Lewis Dunk, je l'ai vu dans un amical là, contre, je ne sais plus, c'était le Brésil ou la Belgique. Oh, il avait été catastrophique.
Ouais, non, c'est pour ça que je te dis non, mais je pense entre Konsa et Gomez sûrement, mais visiblement Konsa part avec un petit peu d'avance.
Merci Julien.
Merci les gars.
Bonne soirée.
Ciao Julien.
Johan, tout à l'heure, tu veux nous parler de deux Zerbi, hein, tu resteras avec nous, mais là pour l'instant, allons sur les Pays-Bas. Pareil, toi, quel est le truc qui t'a le plus plu là, chez les Hollandais avant qu'ils affrontent la Turquie samedi à 21h?
Il y a pas forcément, je suis un peu comme Julien, il y a pas forcément grand chose. Il y a deux éléments à retenir, c'est le match contre la Roumanie où finalement après un premier quart d'heure un peu compliqué, ils ont plutôt bien géré et tu peux te dire que ils ont enfin mis un petit peu en route lors de cet Euro parce que les matchs de phase de groupe avaient été assez pénibles, notamment contre la France et contre l'Autriche. Ça c'est le premier élément. Le deuxième, c'était sans doute la plus grosse interrogation aux Pays-Bas avant cet Euro, c'est le niveau de performance du gardien. Parce qu'on avait trois gardiens à peu près équivalents en termes de talent à l'heure actuelle. Je pense que Verbruggen a une plus grosse marge maintenant qu'un Flecken, par exemple, qui est plutôt lui en bout de course, mais qui aura un petit peu plus de mal à faire des gros bonds en progression sur divers domaines. Mais entre Flecken, Verbruggen et Bailo, on se disait qui va être titulaire avant que Ronald Koeman l'annonce quelques jours avant le premier match. On se disait qui va être titulaire, on savait pas trop. Les trois ont un peu tourné ces derniers mois. Bon, il y a eu du bon et du vraiment moins bon d'un peu tout le monde, à la fois en club mais aussi en sélection. Donc et finalement Verbruggen a vraiment porté un peu cette équipe-là dans les moments difficiles contre la France, contre la Pologne en deuxième mi-temps. Il a vraiment montré des grosses qualités sur sa ligne déjà, et puis aussi il est quand même assez fiable dans le jeu au pied, qui est quand même une donnée assez essentielle pour les Pays-Bas, d'ailleurs qu'il n'avait pas forcément lors de l'Euro, lors du Mondial 2022, puisque c'était Andries Noppert et qui n'avait pas un jeu au pied exceptionnel. Lui vraiment a cette qualité-là de relance pour construire de derrière avec des défenseurs qui ont l'habitude de ça, hein. Van Dijk à Liverpool, Ake à City. Donc c'est sans doute la, si on doit choisir l'individualité qui a le plus marqué avec Cody Gakpo, mais c'est plus lié aussi au match contre la Roumanie, ce serait sans doute le gardien.
Bon, d'accord les gars.
Je suis d'accord. C'est vrai que c'est une bonne surprise vers Verbruggen, surtout que voilà, sur le début de la compétition, moi j'avais pas trouvé les Pays-Bas si transcendants que ça. Peut-être le match contre la Pologne, mais je les avais trouvés très frileux contre la France et contre l'Autriche, un peu dépassés, voire beaucoup dépassés. Et là, ils nous ont fait un match hier de bonne facture, hormis les 15-20 premières minutes où ils ont été un peu en difficulté. Le but de Gakpo leur a fait beaucoup de bien, et moi je trouve que ça peut être un vrai bon départ dans cette compétition, surtout qu'ils ont un quart de finale où ils seront favoris dans les faits contre la Turquie, même s'il faudra se méfier des Turcs. Donc oui, je suis d'accord, même si moi je rajouterais aussi Reinders, que j'ai trouvé vraiment vraiment bon sur le début du tournoi, et encore plus hier avec Schouten. Ça a été pour moi le duo qui a permis aux Pays-Bas de se procurer beaucoup beaucoup de situations.
La passe laser, c'est Schouten là.
Schouten, ouais. Okay. Reinders sur la première mi-temps, c'est
régalable. Moi, je suis d'accord sur Verbruggen, qui a été pour moi qui était jusqu'à hier le meilleur joueur des Pays-Bas depuis le début de l'Euro. Pour les avoir commentés, je les avais trouvés explosé contre l'Autriche, où ils ont subi le défi physique et ils ont été malmenés. Et Koeman avait changé en plus son couloir droit. L'entrée de Berwin hier a été très bonne. Il fait une première mi-temps vraiment de grande facture. Cette Malène derrière reprend et fait quelque chose d'intéressant. Mais moi je suis très positif sur leur milieu de terrain. Schouten, Reinders, Biermann est à côté de la plaque depuis le début. Et là, je pense qu'il a trouvé sa doublette. J'ai trouvé un Xavi Simons aussi qui savait se placer, qui a compris, ou en tout cas, il pouvait être le meilleur. Et on a vu un circuit de passe qui a été répété énormément de fois, où on a trouvé un Schouten qui trouvait un Simons, qui trouvait un Gakpo dans des situations de 1 contre 1. Et je pense qu'hier, c'est ce qui leur a fait énormément de bien. Et ils ont eu cette faculté aussi à maîtriser les temps forts et les temps faibles. On parlait de l'Angleterre juste avant sur le fait de passer la vitesse supérieure, en tout cas de mettre le réveil. Je pense que les Pays-Bas l'ont mis hier et ça va être intéressant de les voir sur leur quart de finale.
Un truc intéressant, tout bêtement, c'est le tableau. Parce qu'ils ont une équipe quand même d'une qualité et ils sont dans la bonne partie de tableau.
Moi, je retiens que tu as dit la Suisse en finale.
Oui, je garde la Suisse, mais néanmoins, pour les Pays-Bas, si je suis supporter hollandais, je vois effectivement une équipe qui a mis, comme dit Damien, le réveil au bon moment, on va dire, dans la compète, et qui peut voir un tableau plus favorable. Moi, je pense que la Suisse est au-dessus.
Après, tu joues la Turquie à Istanbul. Hein.
C'est vrai. Mais bon, je pense pas que ça change grand-chose pour. Pour les joueurs, tu crois?
Ah, allez, je vous envoie RMC par SMS pour participer au jeu et gagner vos places pour les demi-finales de l'Euro. Vous avez 5 minutes pour envoyer RMC par SMS au 732-16.
Kebab obligatoire.
Le kebab a été inventé à Berlin. T'es au courant?
Le Berliner.
Tu me l'apprends.
Voilà. Ouais. Johan, tu restes avec nous pour parler de deux herbies.
Bien sûr.
Dans un instant, tout sur l'OM, le mercato fou marseillais. Florent Germain sera avec nous. Je vous signale qu'au basket, l'équipe de France a battu la Turquie 96-46 en match de préparation aux Jeux Olympiques. On se retrouve tout de suite dans l'after.